Vous écoutez On lit pour vous.
De 6 bibliothèques autonomes à une seule grande bibliothèque. Un texte de Zacharie Goudreau paru le 12 décembre 2024 dans Le Devoir. Une réorganisation majeure du travail est en cours au sein de la grande bibliothèque où des activités sont centralisées pour faciliter la mobilité des ressources et des employés d'un étage à l'autre de cet immense bâtiment du centre-ville. Une transformation qui viendra chambouler le quotidien de centaines de travailleurs. La grande bibliothèque est organisée, depuis son ouverture en 2005, par étages. C'est une organisation qui est géographique. On a empilé 6 bibliothèques l'une par-dessus l'autre et depuis l'ouverture de la grande bibliothèque, chaque étage travaille de façon plus ou moins autonome, explique le directeur des services au public de la grande bibliothèque, Sébastien Nadeau, en entrevue au Devoir. Un employé qui travaillait habituellement au 4e étage perdait ainsi un temps fou à trouver ses repères lorsqu'il était appelé, par exemple, à travailler au 2e étage de l'établissement, organisé de façon bien différente. « C'est comme s'il changeait de monde », lance M. Nadeau. Maintenant, les étages fonctionnent tous de la même façon. Les centaines d'employés de l'institution culturelle située au cœur de la métropole ont été rencontrés début décembre 2024 par la direction de l'établissement, qui leur a présenté les grandes lignes de ce projet en gestation depuis 2022. En interne, ce plan est appelé GB 3.0. On trouvait que projet mammouth, c'était moins sexy. Blague M. Nadeau. Combiner les forces. Concrètement, ce plan de transformation qui n'implique aucune mise à pied vise à faciliter la communication des équipes de travail des différents étages entre elles et une plus grande cohérence dans leur travail au sein de la grande bibliothèque. Pour ce faire, les superviseurs ne seront plus responsables d'employés par étage, mais plutôt par corps d'emploi ou secteur d'activité, explique M. Nadeau. Il espère ainsi pouvoir faciliter la gestion de problèmes au sein de l'institution en incitant les employés des différents étages à travailler davantage ensemble. Avant la mise en place progressive de ce plan, qui se poursuit d'ailleurs, un étage qui était en retard dans la mise à jour de ses rayons devait s'organiser tout seul, illustre le gestionnaire. On est venu insérer certains indicateurs de gestion pour être capable de dire qui est en avance, qui est en retard, comment on s'organise. Ainsi, si on identifie qu'il y a un étage qui est en retard, on va aller chercher des ressources d'un autre étage pour venir aider, détaille-t-il. On vient combiner les forces de travail pour être capable de travailler mieux, poursuit M. Nadeau, qui confirme que ce plan vient aussi centraliser le processus concernant la sélection et l'acquisition de documents pour l'ensemble du bâtiment. Cette simplification permettra à plus d'employés d'être plus présents sur le plancher, aux différents étages, pour répondre aux demandes des usagers, fait-il valoir. Quelques préoccupations. Or, même si l'intention de BANQ est bonne, ce plan soulève des préoccupations auprès de plusieurs employés, constate Sylviane Cossette, présidente du syndicat des travailleuses et travailleurs unis de BANQ. C'est comme si on leur disait « La façon dont vous travaillez depuis 10 ans, dès maintenant, ce sera complètement différent, ce qui génère beaucoup d'anxiété en interne, relève-t-elle. » M. Nadeau indique pour sa part que ce plan, qui se mettra progressivement en branle dans les prochains mois, aura essentiellement comme effet un changement de superviseur pour certains employés. Ce qu'ils font en arrivant au travail le matin jusqu'à ce qu'ils quittent le soir, ça ne devrait pas être si différent que ce qu'ils font déjà, assure-t-il. C'était « De 6 bibliothèques autonomes à une seule grande bibliothèque », un texte de Zacharie Goudreau paru le 12 décembre 2024 dans Le Devoir.
Abat le subjonctif imparfait, ou presque. Un texte de Martin Girard paru le 10 juin 2024 dans La Presse. Chère lectrice, cher lecteur, Après m'être attardé au récent sondage de l'Office québécois de la langue française et aux arguments des partis souverainistes de la CAQ, je vous propose une nouvelle façon d'aborder la francisation à l'ère de la modernité. Ainsi, je vous rappelle que, lors de l'arrivée des calculatrices portables à la fin des années 1970 et au début des années 1980, nous avons eu un débat pour savoir à quelle année scolaire il devenait plus avantageux de permettre aux élèves d'utiliser cet outil de calcul lors des examens de mathématiques et de sciences. Les tenants de l'Antiquité ont perdu le débat, car les élèves pouvaient maintenant passer plus de temps à comprendre les calculs plutôt que d'en perdre à les faire eux-mêmes. Il y a eu un gain sur la complexité des concepts compris par les élèves, et donc, on pouvait, par exemple, apprendre le calcul différentiel et intégral avant l'université. L'apprentissage du français au Québec a, selon moi, atteint un plateau, voire a régressé, parce que nous ne pouvons plus mettre 50 % de notre temps sur les bancs d'école à apprendre cette langue que seuls quelques spécialistes maîtrisent parfaitement. Les autres matières, notamment des nouvelles comme l'informatique, nous obligent maintenant à réduire le temps consacré au français pour demeurer compétitif sur la scène internationale. Une pensée pour les post-doctorants roumains. Aussi, comme les outils de correction orthographique et grammaticale s'améliorent et sont même gratuits pour certains, je crois qu'il devient impératif de permettre aux élèves et aux immigrants d'en utiliser certains tout comme nous nous servons d'une calculatrice. Il est bien plus important de savoir construire des phrases et accorder les verbes, les noms et les adjectifs que de savoir par cœur que « trompette » prend un « p » et finit avec « tte ». Les correcteurs vous corrigeront peut-être les trois premières fois que vous tapez ce mot, mais si vous l'écrivez souvent, vous finirez par l'écrire sans erreur. Le but premier étant désormais de faciliter l'usage pour gagner des adeptes. Pas de décourager un post-doctorant en géophysique originaire de Roumanie. Si l'usage devient plus facile et que plus de gens s'intéressent à utiliser notre langue comme langue d'adoption, après quelques années, les statistiques seront sans doute beaucoup plus positives. Et si nous ne gaspillons plus 6 ans de scolarité pour apprendre par cœur le verbe aimer à des temps qui ne sont pratiquement plus utilisés, nous aurions sans doute plus de temps pour faire découvrir des pans entiers de notre langue qui sont actuellement boudés par les non-francophones. Plus de temps pour étudier les grands auteurs, les compositeurs de chansons de renom, le théâtre et le cinéma de langue française. C'est en faisant découvrir des œuvres en français plutôt qu'en forçant l'apprentissage du vocabulaire et des verbes par cœur que nous aurons des chances de voir les gens vivre un peu plus en français. Une langue, ce n'est pas uniquement des mots. C'est une grande partie d'une culture d'un peuple. Si personne ne lit plus le torrent ou ne regarde plus la grande séduction, notre langue deviendra morte non pas parce que personne ne l'apprend, mais parce que plus personne ne la vit. Si nous voulons attirer des adeptes à vivre notre culture, il nous faut d'abord la changer pour la rendre plus accessible. C'était « Abba le subjonctif imparfait ou presque », un texte de Martin Girard, paru le 10 juin 2024 dans La Presse.
Quand Néandertaliens et hommes modernes se sont rencontrés, un texte de Pauline Gravel, paru le 12 décembre 2024 dans Le Devoir. Une analyse des génomes d'hommes modernes anciens et actuels a permis d'en savoir un peu plus sur quand et comment les Néandertaliens et les premiers hommes modernes sortis d'Afrique se sont rencontrés et se sont accouplés. Un article publié dans la revue Science relate ces découvertes qui nous en apprennent également davantage sur les traces indélébiles que ces croisements ont générées dans le génome des humains d'aujourd'hui. pour élucider le legs que nous a laissé Homo neanderthalensis, des chercheurs du Max Planck Institute for Evolutionary Anthropology à Leipzig, en Allemagne, et de l'Université de Californie à Berkeley, ont analysé les génomes de 59 hommes modernes ayant vécu entre 45 000 et 2 200 ans avant le présent et de 275 humains actuels appartenant à diverses populations du monde. Pour effectuer leur étude, ils ont utilisé comme référence les génomes de quelques Néandertaliens et de quelques Africains contemporains. L'analyse leur a d'abord permis de mettre en évidence des traces néandertaliennes dans tous les individus d'origine non africaine. Elle a permis de confirmer qu'entre 1% et 2% du génome de la plupart des humains non africains vivant aujourd'hui proviennent des Néandertaliens, cette espèce du genre Homo qui a vécu en Europe, au Moyen-Orient et en Asie centrale, et qui s'est éteinte il y a environ 40 000 ans. Chez les Asiatiques de l'Est, ce legs néandertalien est approximativement 30% plus important que chez les Eurasiens de l'Ouest. L'analyse indique aussi qu'un seul groupe de néandertaliens ou plusieurs populations étroitement apparentées auraient contribué à la présence de ces traces néandertaliennes dans le génome des hommes modernes. La longueur des segments d'ADN d'ascendance néandertalienne qui sont présents dans le génome des hommes modernes a fourni des indices sur le moment et la durée du flux génique, c'est-à-dire du passage de gènes des néandertaliens aux hommes modernes. Compte tenu du fait que ces segments raccourcissent un peu à chaque génération en raison des recombinaisons du matériel génétique lors de la fécondation, les chercheurs ont déterminé que le flux génique aurait perduré pendant près de 7000 ans et serait survenu il y a entre 50 000 et 43500 ans, ce qui concorde avec les preuves archéologiques recueillies de la cohabitation d'Homo sapiens et d'Homo neanderthalensis en Europe. Ces dates suggèrent que la majeure partie de la migration hors d'Afrique s'est passée pas plus tard qu'il y a 43 500 ans, soulignent les auteurs dans leur article. Ils avancent par ailleurs que la diversification des hommes modernes hors d'Afrique pourrait avoir commencé pendant ou tôt après le flux génique. Cela pourrait expliquer en partie les différents niveaux d'apport néandertalien parmi les populations non africaines et aussi réconcilier nos dates avec les preuves archéologiques de la présence d'hommes modernes en Asie du Sud-Est et en Océanie il y a environ 47 000 ans. Les chercheurs ont également déterminé que 62% des segments d'ADN néandertaliens se trouvaient dans les autosomes, soit les chromosomes non sexuels, et 20% au sein du chromosome sexuel X. Ils ont également remarqué que de grandes zones du génome des hommes modernes ne comprenaient aucun matériel d'origine néandertalienne, zone qu'ils appellent « désert génétique ». Des séquences d'ADN bénéfiques. Dans le but d'identifier les segments néandertaliens qui auraient été retenus par sélection naturelle en raison des bénéfices qu'ils apportaient aux hommes modernes, les chercheurs ont calculé leur fréquence au sein du génome d'individus anciens et actuels originaires d'Eurasie de l'Ouest. Ils se sont ainsi basés sur le fait que les segments néandertaliens qui contenaient des allèles, séquences d'ADN, bénéfiques ont dû voir leur fréquence s'accroître au cours des générations, alors que ceux portant des allèles délétères ont été éliminés, conduisant de ce fait à des zones désertiques dans le génome. Les chercheurs ont ainsi identifié 86 segments néandertaliens contenant 347 gènes, présentant une fréquence élevée autant chez les anciens individus que chez les contemporains. Cela laisse penser que ces segments renferment des variants qui ont fourni des avantages adaptatifs immédiats aux premiers hommes modernes arrivant d'Afrique qui devaient faire face en Europe, à des conditions environnementales plus rigoureuses, avancent les scientifiques. Dans ces segments, ils ont trouvé des gènes impliqués dans la pigmentation de la peau, dans le métabolisme et dans l'immunité. Les chercheurs ont aussi repéré 91 segments néandertaliens renfermant 169 gènes, particulièrement fréquents chez les humains d'aujourd'hui, mais qui l'étaient beaucoup moins chez les anciens individus. Ce qui indique que ces régions contiennent probablement des variants génétiques qui se sont avérés profitables beaucoup plus tard, explique-t-il. Par exemple, le gène BNC2, qui joue un rôle dans la pigmentation de la peau, avait déjà une fréquence d'environ 22% chez les individus plus vieux que 30 000 ans. Et il présente une fréquence d'environ 65% chez les humains d'aujourd'hui. Ces fréquences signifient que ces variants, formes d'un gène néandertalien, se sont avérés bénéfiques immédiatement et leur importance s'est même accrue au cours du temps. Les chercheurs estiment que la disparition des segments néandertaliens vraisemblablement sans intérêt ou néfaste a, quant à elle, eu lieu très tôt, car les déserts au sein du génome se sont formés rapidement après l'initiation du flux génique. L'ensemble de ces informations sur l'histoire du flux génique d'Homo neanderthalensis vers nous, Homo sapiens, nous informe un peu plus sur les origines de l'humain et sur son adaptation. C'était quand néandertaliens et hommes modernes se sont rencontrés. Un texte de Pauline Gravel paru le 12 décembre 2024 dans Le Devoir.
Ce passage piétonnier n'est pas une décoration. Un texte de Philippe Mercure paru le 17 décembre 2024 dans La Presse. Pour les Québécois qui voyagent hors de la province, le phénomène a quelque chose de presque magique. Ailleurs, vous vous approchez d'un passage piétonnier et les voitures s'arrêtent pour vous laisser passer. Si vous êtes comme moi, vous en éprouvez peut-être même un certain malaise. Je ne voulais quand même pas interrompre le trafic. J'aurais pu attendre mon tour, me dis-je parfois, en me hâtant de traverser pour ne retarder personne. Le non-respect des traverses piétonnières fait partie de la spécificité québécoise, au même titre que la poutine ou les débats sur la façon de prononcer le mot « baleine ». Mais au moment où des groupes réclament un protecteur en sécurité routière pour améliorer la sécurité des piétons, je me suis demandé si faire appliquer cette disposition du Code de la sécurité routière ne serait pas une solution simple pour y parvenir. À Montréal, selon des chiffres fournis par le service de police de la ville de Montréal, SPVM, 17 piétons ont perdu la vie jusqu'à maintenant cette année. Du lot, un décès est survenu à un passage piétonnier. C'était à Anjou, à la fin de l'été. La victime était un adolescent de 15 ans. En tout, 1005 autres piétons ont été blessés dans la métropole en date du 13 décembre 2024. On ignore combien l'ont été au passage piétonnier. Au SPVM, mon idée de renforcer le respect des passages ne suscite pas un enthousiasme fou. On s'entend que chaque décès est un décès de trop. Mais depuis 2020, on compte un seul décès lié à un passage piéton hors intersection à Montréal, me répond le sergent Jonathan Guillemette, superviseur du module conseil de la section de la sécurité routière. Bon an, mal an, le SPVM dit remettre environ 600 constats d'infraction liés au non-respect des passages piétonniers. C'est moins de 0,2% des quelque 350 000 billets émis annuellement. Le corps de police en déduit qu'il n'y a pas de délinquance particulière reliée à ces passages. Le sergent Jonathan Guillemette constate « Je ne vois pas nécessairement une problématique plus que n'importe quelle autre infraction. là où se situe le nerf de la guerre, c'est aux intersections. C'est là que survient la très, très grande majorité de nos collisions. Le SPVM tient quand même à dire qu'il mène régulièrement des opérations spéciales de sécurité routière, lors desquelles les policiers portent notamment attention aux passages piétonniers. Si les citoyennes s'aperçoivent que, dans un secteur en particulier, un passage pour piétons est dangereux et n'est pas respecté, je les invite à contacter leur poste de quartier, soit par téléphone, soit par le site Internet du SPVM, ajoute le sergent Guillemette. Si c'est un problème d'aménagement, on va en référer, par exemple, à la ville de Montréal, dit-il. Si c'est vraiment le fait que les gens ne respectent pas le passage piéton, des opérations plus soutenues seront effectuées. Le SPVM est donc loin d'envoyer le message qu'il se contrefiche des passages pour piétons, mais il estime que la priorité est ailleurs. Une culture a changé. Je ne veux pas opposer des perceptions aux statistiques, mais je persiste à penser qu'il y a un problème de culture dans le respect des passages piétonniers et que le régler contribuerait à la sécurité des piétons. Sandrine Cabana-Degani, directrice générale de Piétons Québec, est d'accord. « C'est clair qu'il y a un problème, dit-elle. On sort du Québec, on va en Ontario, au Nouveau-Brunswick, aux États-Unis, on le remarque. Dès qu'on met le pied sur la rue ou même qu'on s'approche du passage piéton, les conducteurs et conductrices s'arrêtent. Selon elle, le fait qu'il n'y ait pas plus d'accidents au passage piétonnier est dû à la vigilance des piétons québécois. Ceux-ci ont bien compris que ces traverses sont pratiquement une invitation à se faire renverser si on s'y fie aveuglément. Sandrine Cabana-Degani rapporte « Ce que les spécialistes nous disent, c'est qu'au Québec, c'est en général le piéton qui fait la manœuvre d'évitement. C'est lui qui s'arrête et qui laisse passer les voitures. Ailleurs, c'est davantage le conducteur qui s'arrête. Est-ce que ça rend le déplacement à pied agréable, sécuritaire, convivial? Non, continue Mme Cabana-Degani. La directrice de Piétons Québec fait aussi remarquer que si la proportion de piétons tués au passage piétonnier est effectivement faible, 14 % à Montréal, 9 % dans l'ensemble du Québec, ce n'est pas le cas des accidents qui surviennent en pleine rue, soit hors intersection et hors passage piétonnier. Probablement que les piétons traversent là, parce que l'intersection ou le passage piétonnier est trop loin, dit-elle. Ajouter des passages piétonniers pourrait donc réduire le nombre d'accidents, à condition qu'ils soient respectés. J'ajoute que si les passages piétonniers étaient plus nombreux et mieux respectés, les piétons les utiliseraient davantage pour traverser les rues, libérant ainsi les intersections, ces lieux de tous les dangers où véhicules cyclistes et piétons arrivent de plusieurs directions à la fois. Des passages piétonniers respectés auraient aussi pour effet de ralentir les automobilistes et d'augmenter leur vigilance. Sandrine Cabana-Degani souligne qu'il y a quand même des progrès. Avec l'arrivée du réseau express vélo rue Saint-Denis, à Montréal, des passages piétonniers qu'elle juge exemplaires ont été aménagés. Les piétons peuvent segmenter leur traversée en se posant sur des îlots entre les voies. Et le retrait de places de stationnement vis-à-vis des passages force les automobilistes à dévier de leur trajet, ce qui les rend plus alertes. Ailleurs à Montréal, on voit des passages de piétons surélevés, un peu comme des dos d'âne. C'est le cas notamment sur l'avenue Le Tourneux, entre les rues de Rouen et Ontario. Ça aussi, c'est positif. Le temps est venu de faire comprendre à tous que ces bandes blanches peintes sur la chaussée ne sont pas décoratives. Lorsque les Québécois pourront regarder la pochette de l'album Abbey Road des Beatles sans sentir monter l'angoisse, on saura qu'ils se sentent plus en sécurité. C'était « Ce passage piétonnier n'est pas une décoration, un texte de Philippe Mercure paru le 17 décembre 2024 dans la presse.
Coup de main à domicile dévoile son nouvel uniforme. Un texte de la rédaction paru le 21 novembre 2024 dans le Laurentien. Coup de main à domicile, acteur majeur dans le domaine des services à domicile dans la MRC de Rimouski-Neigette, annoncé l'implantation d'uniformes de travail pour l'ensemble de son personnel. Dans un contexte où le vieillissement de la population s'accélère et que les besoins en services à domicile sont croissants, il devient primordial d'identifier clairement le personnel de l'entreprise. Cette initiative vise à accroître la notoriété de l'entreprise en améliorant la reconnaissance de ses services au sein de la collectivité. L'uniforme. Les caractéristiques retenues pour l'uniforme sont un tissu souple, extensible, léger et évacuant l'humidité, facile d'entretien et durable. Les aides à domicile accomplissent un travail exigeant physiquement. Il était important pour nous de leur offrir un vêtement confortable qui leur permette de travailler en toute aisance. Le modèle choisi leur garantit une grande liberté de mouvement, indique le président du conseil d'administration, Sylvain Pelletier. La couleur bleue, qui est également la couleur officielle de l'entreprise, a été retenue pour ses vertus apaisantes. En plus de son association à l'image de coup de main à domicile, le bleu est une teinte qui induit calme et sérénité, ce qui est particulièrement bénéfique pour les personnes atteintes de démence comme les troubles cognitifs. Les bénéfices attendus. L'introduction des uniformes de travail vise non seulement à renforcer l'image professionnelle de l'entreprise, mais aussi à faciliter l'identification de notre personnel par la population. Par ailleurs, cette initiative permet de lutter contre les risques de fraude. Dans les dernières années, certains clients ont été contactés par des personnes se faisant passer pour des employés de notre entreprise. Face à la hausse des demandes de services, il était essentiel pour nous de bien identifier nos aides à domicile, précise la directrice générale de Coup de main à domicile, Marie-Claude Gasse. La distribution des uniformes a déjà débuté et le port de l'uniforme sera obligatoire dès le 1er décembre prochain pour l'ensemble du personnel travaillant à domicile et en résidence pour aînés. C'était « Coup de main à domicile dévoile son nouvel uniforme », un texte de la rédaction paru le 21 novembre 2024 dans le Laurentien.